Je vais vous parler d'un chef de guerre congolais. Il s'appelle Bosco Ntaganda. Pourquoi évoquer ce personnage? Pourquoi étudier et parler de sa biographie militaire, politique et judiciaire? Alors, la première raison qui m'a incité à ce travail, ce sont les multiples engagements de ce personnage dans la plupart des conflits importants de la région des Grands Lacs, c'est-à-dire l'Ouganda, le Congo et le Rwanda. Alors, les conflits des Grands Lacs entre 1990 et 2013. Il a été engagé dans des conflits locaux, strictement congolais, mais ces conflits étaient aussi internationaux. L'Ouganda et le Rwanda ont été en permanence impliqués dans ces conflits. Et d'ailleurs, nous verrons au cours de l'exposé, enfin j'espère que vous verrez, que la force de Ntaganda et la force qu'il a progressivement acquise tient aux alliances qu'il a pu nouer localement et de manière internationale. Sa force tient aux alliances, mais tient aussi beaucoup au renversement d'alliances et aux trahisons. Ce sont des aspects qui ne sont d'ailleurs pas spécifiques à ce personnage. Alors, pour construire un récit sur ce personnage, je m'appuie sur nombre d'enquêtes et de recherches que je ne pourrais pas tous les citer ici, mais je cite effectivement, et c'est très important, les enquêtes du groupe d'experts dont vient de parler Émilie, qui sont vraiment absolument fondamentales pour leur précision documentaire notamment. Je m'appuie aussi beaucoup sur les enquêtes du projet Oussalama, dont Jason Stearns était le responsable. D'autres ici connaissent mieux que moi ce projet et pourront peut-être en parler, puisqu'ils ont participé à ces projets. Enfin, je m'appuie aussi sur les enquêtes de Human Rights Watch au Congo. Enfin, il y a les publications de nombreux chercheurs. J'ai aussi pris de temps en temps appui sur des enquêtes de journalistes, mais beaucoup moins que les autres sources. Alors d'abord, quelques éléments de biographie de ce guerrier. Il est né au Rwanda en 1973. Alors il fait partie d'un lignage, un lignage Bagogwe, qui se trouve à la fois au Rwanda et au Congo. En fait, depuis le XVIIIe siècle, au moins, les Bagogwe ne connaissaient, et au XVIIIe siècle évidemment, ne connaissaient pas la frontière entre les deux pays. C'était des éleveurs de bétail et ils allaient de cette région frontalière qui est maintenant au Rwanda au Congo. C'était vraiment à la frontière. Donc il naît au Rwanda en 1973. Ensuite, pour des raisons que je ne connais pas, il passe son adolescence au Congo, dans le Massissi, qui est une région frontalière, qui est au nord Kivu, là, une région frontalière entre le Rwanda et le... On ne peut pas le voir ici. Enfin, le Massissi, c'est marqué, mais c'est bon. Enfin, peu importe. Il fait donc sa scolarité secondaire au Nord Kivu jusqu'à 17 ans. Il a 17 ans, nous sommes en 1991. Alors, c'est un jeune Tutsi, donc. Il rejoint alors la branche armée du FPR à 17 ans. Il s'engage donc dans l'offensive que le FPR a conduit alors au Rwanda à partir de l'Ouganda. Il reçoit une formation militaire au FPR, qui est à l'armée patriotique rwandaise. Et il fait donc partie des troupes qui, en juillet 1994, arrivent à Kigali. C'est donc sa première phase, sa première étape d'une carrière militaire, de sa carrière militaire. Quelques années plus tard, nous sommes cette fois en 1996-1997, Bosco Ntaganda s'engage aux côtés de la rébellion congolaise dirigé par, qui a pour porte-parole Laurent-Désiré Kabila. Laurent-Désiré Kabila qui se réclamait alors d'une culture révolutionnaire. Donc Bosco fait partie cette fois-ci des troupes et des rebelles qui atteignent Kinshasa en avril 1997. Cette campagne des rebelles doit son succès principalement au soutien militaire du Rwanda, de l'armée patriotique rwandaise. Ce soutien a été absolument décisif et Kagame, le président Kagame, je ne sais pas s'il était président à cette époque, si, non, pas encore, bon, ministre de la Défense alors, a très clairement affirmé l'intervention et l'importance de l'intervention des forces rwandaises au Congo. Donc là, nous sommes en 97. Je passe maintenant à 1998 et aux années qui suivent et aux difficultés de vivre cette période pour un jeune militaire comme Bosco. En effet, là, nous sommes en 98-99 et cette fois-ci, les forces armées ougandaises et rwandaises, qui auparavant étaient plutôt alliées, se combattent au Congo, se combattent très durement au Congo. Donc, simultanément, les factions congolaises se créent, les unes alliées au Rwanda, les autres alliées à l'Ouganda. À ce moment, Ntaganda fait partie de la faction liée à l'Ouganda. Or, ce qui n'était pas forcément prévu, les forces ougandaises sont défaites en 1999 à Kisangani, sont défaites par les forces rwandaises. Au cours de ces combats, Bosco Ntaganda est gravement blessé. Il est transféré d'abord en Ouganda et l'Ouganda le transfère pour des soins en Afrique du Sud. Ce transfert pour des soins en Afrique du Sud montre à quel point l'Ouganda commence à considérer Bosco comme un personnage important qui pourra devenir plus tard un allié. Alors, il est soigné, il fait une convalescence en Ouganda et il repasse au Congo en 2000 dans la zone occupée par le Rwanda, c'est-à-dire l'Ituri. Alors, l'Ituri, c'est la partie du Congo que vous voyez encadré en haut. Et je vais maintenant parler de cette carrière, de sa carrière en Ituri, en allant assez vite, d'ailleurs. Je ne sais plus, on en est où ?
20 minutes encore.
Voilà. Donc là, je vais un peu accélérer. Donc il est donc dans la zone ougandaise du Congo. Et comment dire ? Là encore, les factions congolaises se divisent et la faction que soutenait Bosco ne lui convient plus. Il trahit et passe au maquis. Puis un accord est établi, négocié par plusieurs Congolais avec cet ancien allié, avec l'Ouganda aussi. Et l'Ouganda décide d'envoyer Bosco Ntaganda et ses alliés et ses amis, son groupe armé, en Ouganda pour y recevoir une formation militaire dans un camp d'entraînement. Donc Bosco et 150 ou 200 de ses hommes partent en Ouganda recevoir une formation militaire. Après cette formation militaire, Bosco revient en Ituri, revient notamment dans la capitale de l'Ituri, si on peut parler à la française, qui s'appelle Bounia. Or, passons maintenant à l'année 2002. À l'année 2002, un leader itourien qui s'appelle Thomas Lubanga crée une force armée. Il avait auparavant créé un parti qui s'appelle l'UPC. Force l'UPC, c'est l'Union des Patriotes Congolais. Donc il avait créé ce parti en 2000 et en 2002, il crée une force armée et Bosco devient le chef d'état-major adjoint de cette force armée. Et il est tout particulièrement chargé des opérations militaires. Alors, 2002-2003, c'est une période de massacres et de combats sur lesquels je reviendrai un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, en 2004, une négociation aboutit à une relative accalmie en Itourie et Bosco, qui participe à ces négociations, est nommé général de brigade dans l'armée congolaise. Au bout d'un certain temps, ça ne lui convient pas et il change de situation et il passe au Nord Kivu, que vous voyez là, pour s'allier à une rébellion qui s'est formée de 2 ans auparavant, la rébellion d'un général lui aussi Tutsi, qui s'appelle Laurent Nkunda. Alors il y a pas mal d'analogies entre Bosco et Laurent Nkunda. Ils sont tous les deux des Tutsis congolais. Ils sont tous les deux rwandophones. Ils ont tous les deux combattu avec le FPR de 1990 à 1994. Et ils sont tous les deux membres de l'Église adventiste. Bon, alors Laurent Nkunda crée une force armée et tout ça en 2005, à laquelle donc adhère Bosco, où il devient chef militaire de cette force armée. Là aussi, on rentre de 2006 à 2008 dans une période de violence extrême, de massacres et aussi d'énormes déplacements forcés de population. Des déplacements vraiment massifs, avec des constitutions de camps de réfugiés, souvent mis en danger, et des massacres importants. Alors, janvier 2009, une nouvelle trahison de Nkunda. Il déclare que Laurent Nkunda n'est plus à la tête du parti, mais que c'est lui, Nkunda, qui devient le chef. Il est alors soutenu par le Rwanda, qui lâche donc l'autre, et cette trahison réussit. Réussit au point que Nkunda devient un chef militaire très important au Nord Kivu. Il est même à la fois rebelle et membre de l'armée congolaise, d'État, les deux à la fois. Et il collabore aussi avec la MONUSCO. Donc il est sur tous les fronts à la fois. C'est son moment de plus grande puissance. Ça ne dure pas longtemps. Les factions, une faction se crée contre Nkunda. Nkunda ne convient plus aux Rwandais. Et il perd progressivement de ses forces et il est battu par la nouvelle faction, cette fois soutenue par le Rwanda. Donc cette fois, c'est une trahison. Enfin bon, c'est des trahisons qui bougent. Nkunda fuit et il passe secrètement au Rwanda le 15 mars 2013. Il se rend ultérieurement à Kigali et se rend à l'ambassade des États-Unis. Alors là, il y a 4-5 jours qui, pour moi, sont mystérieux, sur lesquels les journalistes ont beaucoup parlé, avec chacun des hypothèses différentes. Je n'en ai aucune. Je ne suis pas journaliste ni enquêteur pour une institution importante. À ce moment, Nkunda est transféré à la Haye, à la CPI. Alors, pourquoi j'ai fait cette courte biographie? D'abord pour vous montrer l'importance des alliances et des jeux d'alliances et des trahisons. Pour un chef de guerre comme lui, qui successivement est rebelle, loyaliste et inversement. Mais à cet égard, je dois souligner que Nkunda n'est pas un personnage rare, ce n'est pas un personnage d'exception. Par exemple, pour ouvrir une intervention humanitaire, dans nombre de cas, c'est avec ce type de personnage que les humanitaires et d'autres, comme les enquêteurs des Nations Unies, doivent discuter et négocier. Et ce n'est pas un personnage rare en Ouganda, non, au Congo, ni ailleurs. J'en viens maintenant, Bosco est à la Haye, à la CPI. J'en viens maintenant au procès de Bosco. Alors là, on peut montrer le bouquin de... Voilà. Alors, juste une référence. un livre vraiment important sur la CPI et sur les procès aux Congolais. C'est ce livre. C'est une enquête quasiment ethnographique sur un procès. Il a entièrement suivi le procès de Lubanga, qui était le chef politique de Naganda. Il a entièrement suivi son procès. Il a été enquêté en Ituri et il a vu les avocats et d'autres personnages importants du procès. Donc, pour voir comment fonctionne un procès, lire ce livre est vraiment très intéressant. Alors maintenant, ma source principale sera les transcriptions du procès qui sont publiques et accessibles. L'accusation a présenté 18 chefs d'accusation. On peut les afficher. Alors je ne vais pas vous les lire, mais voilà les 18 chefs. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Je voudrais surtout souligner que, à la différence du procès précédent, les crimes sexuels ont été ici retenus. Alors que dans le procès précédent, celui de Lubanga, seul le recrutement des enfants de moins de 15 ans avait été retenu. Seul, alors qu'ici, vous avez une liste quand même assez variée de crimes. Je précise que plus tard, ce ne sera plus le premier procureur qui sera en action, mais Madame Fatou Bensouda. Je ne sais plus exactement la date exacte. Mais il est important de noter que pour le premier procès Lubanga, ce sont les pressions de Moreno qui avaient fait qu'une seule accusation avait été retenue, parce qu'il pensait que cela lui permettrait vraiment d'obtenir une condamnation. C'était le premier procès et il tenait absolument qu'une condamnation soit obtenue. Alors, voilà les accusations. Bosco plaide non coupable. Le procès s'est terminé le 30 août 2018, c'est-à-dire relativement récemment. J'en viens à quelques audiences du procès. Alors, ce qui est le plus connu, en général, ce sont les massacres, les viols sexuels, les violences commises. Pour ma part, comme il s'agit d'une masse de documents, donc il faut trouver quelles questions poser à cette masse de documents. Pour ma part, j'ai choisi de présenter la défense, plus exactement, comment Naganda se présente lui-même dans ce procès et comment il se défend. Je retiens trois arguments. D'abord, sans arrêt au cours du procès, il rappelle son premier engagement en jeune homme de 17 ans aux côtés du FPR. Et il définit rétrospectivement, il se définit comme quelqu'un qui a commencé dans sa vie militaire pour mettre fin à un génocide. Et ça reviendra de façon extrêmement régulière tout au long du procès sur le thème « Je suis un de ceux qui ont mis fin au génocide au Rwanda ». Il rappelle aussi que nombre de ses parents Bagogwe ont été victimes du génocide, au début du génocide même. Deuxième argument, régulièrement avancé, le thème de l'engagement révolutionnaire et le thème de l'importance pour une force armée d'avoir une idéologie. Alors, l'engagement révolutionnaire, c'est un thème relativement banal à l'époque, puisque ça a été évidemment la culture prétendue de Laurent Désiré Kabila. Mais ça a été aussi, et là Bosco s'y réfère explicitement, le discours de Museveni avant sa victoire et sa prise de pouvoir. Mais Bosco insiste tout particulièrement que cette culture révolutionnaire, il l'attire de l'armée patriotique rwandaise. C'est là qu'il a appris à devenir comment il se caractérise lui-même, c'est-à-dire un rebelle révolutionnaire. Il se définit comme rebelle révolutionnaire le premier jour où il est auditionné au procès et le dernier jour du procès, c'est-à-dire le 18 août, en août 2018. Hop. Un autre aspect qu'il faut souligner, qui est aussi assez emprunté au Rwanda, que veut-il dire par révolutionnaire? Il veut dire se battre pour tous les habitants et il avance en gros l'argument que les différences entre ethnies n'existent pas. Il défend tous les Congolais, mais pas tel ou tel groupe. Et ça, il revient aussi régulièrement sur ce point, et ça aussi, c'est emprunté au Rwanda. Troisième argument important pour se défendre, c'est l'argument « je suis un militaire ». Alors ça, c'est pratiquement à chacune de ces interventions. « Je suis un militaire », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « je suis un exécutant ». Alors effectivement, il était chef d'état-major, mais chef d'état-major en second. Donc il dit « lorsque Kisembo, son chef, me donnait un ordre, je devais obtempérer et mettre en application cet ordre ». D'où la difficulté d'ailleurs pour l'accusation, c'est de prouver que Ntaganda est responsable de massacres, c'est-à-dire qu'il était présent sur place au moment des massacres ou au moment des combats, et qu'il a directement ordonné ces massacres. Enfin, je vais y revenir. Enfin, je voulais insister sur ce fait. Je suis un militaire égal, je n'étais pas un politicien, ce qui lui permet aussi que chaque fois qu'on lui montre un document politique, il dira « je ne le connais pas ». Ce qui lui permet effectivement de se dégager de nombreuses responsabilités et d'engagements sur lesquels autrement il pourrait être condamné. Et ça revient aussi régulièrement sur des documents très importants par ailleurs. Alors là, je voudrais faire une remarque sur la procureure, sur l'accusation. Donc maintenant que je viens de faire la défense, je passe un peu à l'accusation. L'accusation en 2017 est représentée par une personne qui s'appelle Nicole Samson, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est canadienne, je crois, et qui est premier substitut de la procureure générale, Madame Bensouda. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que c'est cette procureure, mais là, sans doute certains considérant que je suis naïf, c'est que cette procureure ne recourt jamais à la masse d'enquêtes sociologiques, anthropologiques, tout ce qu'on veut, ni de recherches historiques, qui sont nombreuses et de grande qualité, sur l'est du Congo, et qui permettent quand même, à mon avis, mieux de comprendre ces conflits et de se poser des bonnes questions sur la responsabilité d'un chef de guerre. Par exemple, cette procureure utilise systématiquement le concept de communauté. Elle présente les EMA, c'est-à-dire... Elle présente... Pardon ? Non, je parle de Madame Samson, mais qui est dirigée par Madame Bensouda. Elle, donc... usage systématique du concept de communauté. Alors, qu'est-ce qu'une communauté pour elle ? Par exemple, les EMA, qui est un des groupes importants dans cette région, une communauté, c'est-à-dire les EMA, par exemple, serait une entité politique représentée par des porte-paroles. Autrement dit, d'après elle, la population EMA de 2002-2003, la période qui concerne son enquête, ne différerait pas de la population EMA d'avant 1998, avant l'occupation ougandaise. C'est comme si ces ethnies, entre guillemets, étaient des groupes figés, sans histoire. C'est à un point qu'il n'y a jamais un mot, jamais une référence à aucune enquête de sciences sociales par ce procureur. Alors, je voudrais préciser, comme j'ai cité pas mal la défense, que je ne suis pas avocat de Bosco Ntaganda, que nombre de rapports, nombre d'enquêtes attestent les massacres commis par les forces auxquelles il participait, soit en Ituri, soit au Kivu. Alors, ça pose un problème, d'ailleurs, pour j'y reviens pour le tribunal. Par exemple, je me reporte à l'audition d'une enquêtrice de Human Rights Watch, Madame Haneke, qui est très connue à Human Rights Watch. Elle est interrogée par la CPI en juin 2016. Et elle avance, dans son interrogation, elle cite les témoignages de soldats qui ont participé à un grand massacre au Congo, à Mongwalou. Alors tous déclarent que Ntaganda était présent et qu'il était même à la tête du massacre et de l'attaque. Or, l'avocat les interroge un peu plus et finalement, beaucoup déclarent qu'ils n'ont jamais vu Ntaganda. Mais Ntaganda est le chef. Donc, il suffit de... Or, du point de vue juridique, ça veut dire que ces témoignages ne tiennent pas, alors que Mme Haneke affirme la responsabilité de Ntaganda dans ces massacres. Un dernier moment de mon exposé. J'espère qu'il me reste un peu plus de 5. Bon, je vais en prendre 6, si tu m'autorises.
Si les organisateurs sont de mauvais élèves, vous savez.
Un dernier moment de l'exposé. Alors là, il ne s'agit plus d'une agenda parce que, après une intervention très, très forte des Ougandais, il a fui. Il a fui et il s'est rendu à Goma. On peut revenir à la carte. Si on veut. Il s'est fui à Goma, là, où il se sentait en sécurité, car la ville était alors contrôlée par des alliés du Rwanda. Alors, en effet, on est maintenant en 2003, en mai 2003. Le 6 mai 2003, l'armée ougandaise a complètement quitté, a presque complètement quitté, ou a déclare avoir quitté complètement l'Ituri, et en particulier la ville de Bunia. Alors, on la voit, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est au centre, là, voilà, Bunia. Donc l'armée ougandaise a quitté la ville, et à ce moment-là, la ville devient un lieu de combat extrêmement rude entre deux factions armées, l'une celle de l'UPC dont j'ai parlé auparavant, et l'autre de plusieurs forces qui se sont alliées entre elles contre l'UPC. Alors, l'une de ces forces par la population emploie des termes pour les caractériser, l'une de ces forces, les participants à l'une de ces forces sont caractérisés comme des combattants l'hindous. L'hindous, c'est un des grands groupes culturels ou ethniques de la région, comme vous voudrez. Et l'autre groupe, on les désigne comme les gens de l'Ubanga ou des gens de l'UPC, l'Union des Patriotes Congolais. Quoi qu'il en soit, je reprends des termes utilisés par des habitants de Bunia. Je précise que j'ai été à Bunia pour rendre visite et connaître mieux le travail de l'équipe MSF sur place. Je n'y ai pas été en mai, j'y ai été fin juillet, début août 2003. Bon, donc je reviens en arrière et je reviens en mai. Donc plusieurs jours de combats extrêmement violents, extrêmement durs entre les milices. À la suite de ces combats, l'UPC est victorieuse et devient la force dominante à Bunia. MSF était déjà à cette époque présente à Bunia. MSF n'était pas la seule présente, d'autres ONG internationales étaient présentes et des responsables des Nations Unies étaient présents, dont un ex-MSF avec qui j'ai pu dialoguer de façon très intéressante et qui était devenu un responsable des Nations Unies à Bunia. Alors, j'en suis à la page. J'en suis où, en fait?
Il te reste 2 minutes.
Hop, donc je saute. Alors, MSF, à la suite de ces combats, a recueilli des témoignages. 33 témoignages ont été recueillis dans 2 camps de déplacés. Assez loin de Bunia, de 2 camps déplacés où MSF travaillait. Alors j'ai lu ces témoignages, 33. Alors ce sont des témoignages humanitaires, c'est-à-dire ils ont pour objectif non pas de faire une enquête au sens où nous l'entendons, où je l'entendrais du point de vue du sens social, mais ce sont des enquêtes principalement pour soutenir une intervention publique, pour soutenir une prise de parole. En tout cas, je retiens quand même un aspect de ces témoignages, parce qu'ils sont nombreux à dire que les tueries de mai 2003 n'ont pas eu leur pareil auparavant. Elles sont exceptionnelles. Et ils disent que ce n'était pas comme avant. Et quelle est la nouveauté? La nouveauté, cette fois, c'est que l'on forçait les portes. Les combattants cassaient les portes et prenaient des gens pour les tuer. Auparavant, on tuait dans les rues. Cette fois, on tue et on va prendre les gens dans les maisons. Et c'est ça la caractéristique nouvelle de ces massacres. Quand MSF les interroge, ces personnes sont encore sous le choc. Elles sont dans des camps, il y a un afflux déplacé, c'est plus ou moins organisé, ça s'organise de mieux en mieux avec le temps. Et elles rappellent tous les risques encourus lors de leur fuite, notamment aux barrières tenues par tel groupe ou tel groupe, et à chaque fois, il faut négocier ou se faire tuer. Alors, juste pour finir, les témoignages recueillis sont utile aussi pour un chercheur. Mais il diffère effectivement des enquêtes de terrain conduites par des chercheurs en sciences sociales, qu'elles soient sociologiques, anthropologiques ou historiques. Mais effectivement, dans la plupart des cas, les chercheurs enquêtent après coup. Le plus souvent, pas toujours. Et effectivement, ils tirent parti de cette situation d'après coup. Avant d'aller sur le terrain, ils ont pu consulter un maximum de données disponibles. Ils ont pu réfléchir à leurs questionnements, sélectionner des questions d'enquête, prévoir des démarches de terrain, faire les négociations utiles aux démarches de terrain. C'est un peu aussi ce que racontaient nos collègues à propos de la Syrie avant-hier. Alors, je ne veux pas construire une hiérarchie entre les recueils humanitaires de témoignages et les enquêtes sociologiques. Mais je crois qu'il faut vraiment maintenir et analyser la différence entre ces démarches et la maintenir, même si réciproquement il y a interaction entre les deux, et je peux en témoigner personnellement. Il y a interaction, mais il y a aussi tension entre le terrain humanitaire et le terrain des chercheurs. Mais ces tensions font partie de l'identité de chaque groupe, si on veut. Alors, il faudrait effectivement détailler ces tensions, les expliquer au cas par cas, et expliquer aussi les interactions et les coopérations dont témoigne, par exemple, le livre que j'ai fait avec Jean-Hervé Bradol sur le Rwanda. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps.
Ça va, Marc. Merci.